Alors, frères et sœurs, comme moi, vous avez certainement été appelés un jour à agir comme juré dans un procès. Vous savez, on reçoit une lettre à la maison, puis on dit, vous êtes choisi, alors si vous avez des empêchements, retournez cette lettre avec un document qui précisera que vous ne pouvez pas. Je ne sais pas par quelle magie, j'ai jamais eu de moi quelque chose qui m'empêchait d'y aller, mais après m'être présenté, j'ai toujours été rejeté. Gloire à Dieu. J'aime autant ça. Participer à un procès, puis être responsable de l'inculpation d'une personne, ça ne me sourit pas à moi, et certainement pas à vous non plus. C'est lui, l'Esprit-Saint, par exemple. Je sais comment fonctionne une cour de justice. Et il y a là-dedans l'Esprit-Saint, vous allez voir. Dans une cour de justice, il y a un juge. C'est lui qui préside. Il préside selon les pouvoirs que la législation lui confère. Il y a les jurés qui écoutent les témoignages, les interventions des avocats. Et avec les directives du juge, ils sont chargés de trouver l'inculpé coupable ou non coupable. Il y a aussi les avocats, celui de la défense et celui de la couronne, qu'on nomme aussi l'avocat de la poursuite. Alors, frères et sœurs, vous connaissez comme moi comment le système judiciaire fonctionne. Et dans les textes de la parole de Dieu ce matin, il est question de l'Esprit-Saint qu'on décrit comme dans le système judiciaire. On le décrit comme l'avocat de la défense, le défenseur. C'est un mot qu'on a entendu à plusieurs reprises depuis le début de la messe. On sait que l'Esprit-Saint, il est toujours présent. Il guide les croyants que nous sommes, les croyantes et les croyants que nous sommes. Et plus largement, il guide l'Église du Christ. Dans la première lecture, vous avez entendu qu'il y a eu une controverse dans l'Église primitive. Les premiers convertis, parce que là on est au tout début de l'Église, Pierre est encore là, alors c'est au tout début. Il y avait les premiers convertis, dis-je, c'était des Juifs. Bien sûr, la Pentecôte a eu lieu à Jérusalem. Qui vit à Jérusalem? Les Juifs. Alors, les Juifs, en se convertissant, puisque dans les Actes des Apôtres, on précise qu'il y a eu plusieurs milliers de baptisés ce jour-là, le jour de la Pentecôte. Alors, donc, c'était des Juifs. Mais vous savez, ces Juifs, en se convertissant, ils n'ont pas abandonné leur tradition. Ils n'ont pas abandonné les rites du judaïsme. Alors, qu'est-ce qu'ils font le dimanche? Ils vont à la synagogue. Et il continue à pratiquer les rites de la religion juive. Et un de ces rites-là, qui existe depuis le temps d'Abraham, c'est la circoncision. On voit cela au chapitre 17, le verset 9 et 10 de la Genèse. Ça commence avec Abraham. C'est que la circoncision était pour les Juifs une question d'identité. Les Juifs mâles, bien sûr. On ne s'obstinera pas là-dessus. Ils sont membres du peuple hébreu, les mâles juifs qui sont circoncis. Donc, pour faire partie du peuple hébreu, si on est un homme, il faut être circoncis. Or, dans l'Église primitive, les chrétiens venaient du judaïsme, comme je viens de le dire, et ils ont voulu imposer aux autres qui ne venaient pas du judaïsme, ils ont voulu leur imposer cette coutume, cette tradition. Mais à Antioche, là, il y a une bataille qui se prépare. Parce que les nouveaux chrétiens, c'est des Grecs à Antioche. C'est en Grèce, cette ville. Et ce sont des païens. Et eux, ils refusaient de se faire circoncire. Alors, il y a eu une réunion. En fait, ça a été le premier concile, le concile de Jérusalem. Alors, il y a Pierre, il y a Paul, il y a Jacques, il y a Barnabé, il y a les anciens, ceux qui avaient la charge de guider l'Église, ils étaient là. Finalement, il a été décidé qu'on n'imposerait pas aux chrétiens qui viennent du paganisme l'obligation d'être circoncis. Lors du Concile Vatican II, il y a maintenant près de 60 ans, on a convenu que l'Esprit Saint a éclairé les pères conciliaires et pour les aider à prendre les meilleures décisions pour notre temps. Eh bien, c'est aussi l'Esprit Saint qui, par les apôtres Pierre, Paul, Jacques et Barnabé, a présidé à la décision prise lors de la réunion de Jérusalem. On s'aperçoit que l'Esprit Saint, il est présent dans les textes d'aujourd'hui. L'Évangile, pour sa part, nous rappelle que ceux et celles qui rencontrent le Christ accueillent dans leur cœur la Trinité elle-même, les trois personnes en Dieu. C'est la promesse de Jésus. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Mon Père l'aimera, nous viendrons chez lui et nous ferons chez lui notre demeure. Garder la parole au sens que lui donne l'évangéliste Jean, ça veut dire chérir, aimer et vivre de la parole, et non pas l'enfouir comme un trésor. Vous savez, l'homme de l'Évangile qui avait un talent, il est allé l'enterrer, l'enfouir. Alors Jésus annonce qu'il nous enverra un autre défenseur. Je dis bien un autre, parce que le défenseur, c'était lui. Et maintenant qu'il s'en va, il y en a un autre qui fera cette job-là à sa place. Il se tiendra à notre côté, cet autre défenseur, l'Esprit Saint. C'est Jésus donc, le nouvel avocat, ce n'est pas un remplaçant. Je pense que j'ai dit remplaçant, hein, qui le remplacera. Ce n'est pas un remplaçant, parce que le Seigneur, lui, sera aussi présent d'une autre façon. Alors, le nouvel avocat, l'Esprit Saint, lui, il garantit la présence de Jésus ainsi que celle de son Père. Parce que c'est bien dit dans la parole de Jésus, « Ils viendront ». Donc, troisième personne du pluriel, ils sont plusieurs. Celui qui demeure fidèle à la parole de Jésus et les trois feront chez lui leur demeure. Donc, chacun, chacune de nous peut devenir la demeure de Dieu. Le Paraclet, le nom que l'on donne aussi à l'Esprit Saint, il fait sa demeure chez quiconque aime Jésus et observe ses commandements. Et observe ses commandements, ça va ensemble. L'homme n'est pas né seulement pour consommer, pour jouir et pour mourir, mais il a été créé pour qu'une étincelle de l'éternité habite en lui. C'est ça que saint Paul affirme quand il va écrire à ses frères et sœurs, « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vos cœurs? » Le temple de Dieu, c'est vous. Le don que Jésus fait la promesse suivante, le défenseur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, lui vous enseignera tout et il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. On comprend que l'amour de la Trinité pour ses disciples sera scellé par la présence de l'Esprit qui sera leur défenseur face au monde. C'est ça le travail de l'Esprit Saint. Dans un procès, il y a toujours un gagnant ou il y a toujours un perdant. Et il y a toujours un verdict de la part du juge. Avec Jésus, nous ne serons jamais, jamais les perdants. C'est que notre avocat, c'est le même qui a oint le Messie, qui l'a fait vainqueur des ténèbres, il l'a fait vainqueur de la mort et l'a fait entrer dans la gloire de Dieu. Les paroles de Dieu s'adressent aussi à nous aujourd'hui, c'est certain. Le Paraclet, il est également présent chez les disciples de Jésus. Les disciples de Jésus aujourd'hui, vous et moi, on a un jour été confirmés On a reçu la plénitude de l'Esprit de par notre baptême. Alors, le Paraclet, il est également présent chez nous, autant qu'il l'était pour la première génération de chrétiens. On ne doit pas penser que Jésus, de nos jours, a abandonné son Église. Vous savez, l'Église nous présente le catéchisme de l'Église catholique. Et dans ce livre-là, ce catéchisme, l'Église a utilisé une très, très belle expression pour exprimer ça. On va trouver au numéro 1099 la phrase suivante. L'Esprit Saint est la mémoire vivante de l'Église. Donc, l'Esprit Saint va multiplier en nous ses dons pour nous faire aimer Jésus et nos frères et sœurs, demeurer dans sa parole, obéir à ses commandements et partager généreusement et librement avec les autres ce que nous avons reçu gratuitement. Frères et sœurs, soyons toujours, toujours ouverts au travail de l'Esprit Saint. Et si on fait ça, on sera des agents de l'Avocat pour l'Église et pour le monde. Amen.